suite à une grève de la faim qu'une jeune femme a fait pour sauver sa parcelle, une parcelle forestière qui était à côté de chez elle de 24 hectares. D'ailleurs, cette parcelle est devenue propriété du parc régional du Morvan. Il y a eu un succès par rapport à son combat. Et bien entendu, une grève de la faim s'est vite remontée auprès du ministère, qui s'est dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, dans ces cas-là, dès qu'il y a un petit peu de mouvement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un groupe de travail ou une commission. Et cette commission, qui était le groupe de coordination pour la forêt Morvandelle, était constituée essentiellement de forestiers. Et donc, nous, en sachant ça, on a demandé d'être intégrés, ce qu'on a fait. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Moi, je me suis retrouvée avec tout le monde forestier, avec des petits sourires narquois, bien entendu considérés comme absolument incompétentes. Je ne dis pas, quand j'ai commencé, je n'étais pas très compétente non plus. Mais bon, je représentais quand même une association et la société civile. Et donc, je me suis dit, ben, où tu arrêtes d'être une potiche au milieu de tous ces grands pontes au niveau de la forêt, où tu travailles. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur la forêt, la gestion forestière. J'ai trouvé quelques appuis d'amis dans la plus grande discrétion, hein, des spécialistes et des forestiers dont je ne dirai jamais comment ils m'ont aidé sur le terrain, qui sont allés avec moi, qui m'ont expliqué là t'as tort, là t'as raison, là faut pas aller trop vite, comment ça se passe. Et donc de ce point de vue là je pense que je me suis assez imposée comme partenaire dans ces commissions. Et donc au Thème Ovo Écologie, on est intégré à peu près dans toutes les structures au niveau de la forêt pour la Bourgogne, y compris au parc régional où je représente les associations environnemental, au comité syndical et au bureau du parc, et à la commission régionale des produits forestiers du bois, où là, de Bourgogne, où là se passent en fait les décisions au niveau de la politique forestière qui redescendent au niveau des régions. Voilà. Donc, pour moi, le gros souci, c'est pas de participer, ça fait du travail beaucoup, mais c'est de savoir jusqu'à quel point on peut être présent, participer, sans perdre un peu notre âme. Parce que c'est pas toujours facile, parce qu'on se retrouve minoritaire dans ces commissions. Et quand il faut voter, bien entendu, on vous dit bah, la majorité décide. Donc notre rôle, il est quand même simplement réduit, et moi je le regrette. Le fonctionnement fait que, bon, on est toujours minoritaire, l'environnement, on est toujours minoritaire. Donc notre rôle se limite quand même à dire on est là, on est présent. On s'accroche, on revient et on fait des propositions et on discute et on intervient. Je prendrai l'exemple hier à une réunion importante au niveau des aides qui vont être données par l'Europe dans le cadre du FEADER pour la Bourgogne, où il y avait une réunion de travail. Eh bien, j'ai encore entendu des phrases, moi, à chaque fois, j'interviens là-dessus, parce que je pense que ça bouge très, très peu. Le monde forestier, depuis 15 ans, moi, où je me bats, j'entends toujours les mêmes discours. Je pense que les écologistes, on avance beaucoup plus que ce monde de la forêt qui est encore opaque, où j'ai entendu comme hier, oui, ben, la fuite est irrégulière, ça ne garantit pas la pérennité de la forêt. Ou alors, si elle n'est pas exploitée, elle meurt. Ou le Douglas, c'est l'avenir économique du Morvan, il n'y en a pas d'autre. Donc, ça n'avance pas là-dessus et c'est très, très difficile. Donc, à chaque fois, il faut dire on est présent et on n'est pas toujours d'accord. Bon, alors, on me dit, moi, sûrement pour me faire plaisir. Mais attendez, Madame Haes, vous avez fait avancer beaucoup. Pour la fuite irrégulière, on n'en parlerait certainement pas si vous n'aviez pas été là. Je pense que c'est aussi grâce à Roland Sus et Tristan Sus, Dlafi et ProSilva, que les choses avancent en Bourgogne. Néanmoins, on n'en est quand même qu'à 10% de gestion de forêt en futaie irrégulière, et ça ne va pas assez vite du tout. Alors le gros problème, l'inquiétude que nous avons, c'est, je vais pas vous faire un cours de sylviculture, on a prouvé que, parce qu'il y a des spécialistes ici qui connaissent aussi bien, mais moi ce qui me choque et ce qui me scandalise, c'est qu'en fait cette alternative de la futaie irrégulière, ça solutionnerait tous les problèmes de forêt. Nous, on le prouve avec le groupement forestier, je vous en dirai un mot après, mais avec les associés, quand on va sur le terrain, quand on nous dit « Attendez, les écologistes, les citoyens, ils ne veulent pas qu'on coupe un arbre », c'est faux. Quand on explique « Personne n'est contre couper un arbre, on est tous utilisateurs d'arbres ». Et donc, le citoyen, il est tout à fait prêt à accepter une gestion forestière qui est l'alternative, comme proche de la nature, en futaie irrégulière. En plus de ça, on préserve les paysages, on préserve la biodiversité, on garde la qualité des sols, qui est indispensable, parce que ça, on fait jamais le rapport entre la qualité des sols et la forêt. Voilà. Donc là, ça ne se développe pas et il y a un frein à ce niveau-là qui est absolument incompréhensible. Et moi, je pense qu'on est arrivé à un point que des structures restent sur leur passé et ne veulent pas changer les choses. Simplement, je ferai quand même un petit aparté, c'est que pour nous, en Bourgogne, il y a le CRPF, le Centre Régional de la Propriété Forestière, qui a quand même fait d'énormes progrès. Et qui parle maintenant de futaies régulières. Donc pour nous, c'est un atout précieux pour la Bourgogne. Je n'en dirai pas actuellement autant pour l'ONF. Je pense que peut-être ça va changer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment scandaleux qu'en fait, on ne puisse pas faire avancer ce type de sylviculture qui, en fait, est économiquement rentable, comme hier, pareil, à La Réunion, on a entendu, la futaie régulière, c'est pas rentable. Voilà. On ramène toujours la futaie régulière qu'on pourrait le faire sur des petites surfaces, sur des peuplements dégradés qui ne valent plus rien économiquement. Et ça, c'est vraiment scandaleux, parce qu'on le prouve, on sait que ça fonctionne, on sait que ça marche. Donc on est branché sur une politique forestière absolument industrielle, et on ne fait que contrecarrer ce qui peut intégrer l'environnement. Par exemple, dans l'Europe qui va financer pour la forêt, vous avez des lignes de financement qu'on vous explique, on sépare toujours environnement de production. Ça veut dire qu'on considère que l'environnement, de toute façon, c'est pas rentable, donc on fait des petits apartés pour l'environnement, comme par exemple, on vous ramène toujours Natura 2000. Ben, soit Natura 2000, pour nous, on soutient absolument. Mais la biodiversité ordinaire, Natura 2000, c'est autre chose. Mais il faut travailler aussi sur la biodiversité ordinaire. Donc vraiment, moi, je pense que maintenant, il ne faut pas se tromper de cible ou d'adversaire. C'est la politique forestière qui est complètement incohérente. D'un côté, on fait des schémas pour protéger la biodiversité. On fait des schémas pour énergie-climat, dont on y a participé sur la Bourgogne. Et d'un autre côté, quand on parle forêt, on parle filière bois, et on ne fait jamais le rapprochement par rapport à ce qui se passe sur le terrain avec la forêt. Par exemple, les gros projets qui se passent sur le Morvan et tout, on parle filière bois, on nous donne des chiffres, mais jamais dans les projets, on fait un rapprochement avec la ressource disponible. Comment est-ce qu'on peut donner accord sur un projet en n'étant pas sûr qu'il y ait la ressource disponible? Parce qu'on vous donne des grands chiffres, par exemple, pour la ressource en Bourgogne. On va vous dire qu'il y a 1,2 million actuellement de mètres cubes de résineux qui sont disponibles. Voilà. Mais on ne descend jamais au plus près du terrain, comme le Morvan, puisqu'on sait très bien que 50% plus des forêts morvandelles sont enrésinées et que la grosse partie des Douglas se trouve sur le Morvan. Donc la ressource, on va aller la chercher où? On ne va pas aller la chercher à la porte de Dijon, dans les belles forêts feuillues. On va venir la chercher en Morvan. Et le Morvan va être encore sacrifié, la forêt du Morvan, à nouveau, pour du bois énergie. On va encore sacrifier la forêt morvandelle. Alors nous, au terme d'agroécologie, pour en revenir, on a fait des actions, on a eu quelques succès. On avait fait un comité de défense des feuillus du Morvan, où on a eu énormément de signatures. Et le classement du Mont Prenelet des sources de Lyon est à notre actif, puisqu'on s'est beaucoup battu pour ce site qui était à vendre, qui avait été vendu à un exploitant forestier et qui était, on avait de grandes inquiétudes qu'elle allait être coupée à blanc. Donc avec deux autres associations locales, on s'est battu pour le classement. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile, ça a duré un an. Et c'est la Dominique Voynet, qui était alors ministre de l'Environnement, qui a classé ce massif. Il y a 950 hectares de classés au titre de la loi paysage. Donc normalement, c'est quand même une garantie de ne pas avoir de coupe à blanc. Quoique maintenant, on peut plus être tellement sûr de rien. Je peux vous dire, il faut être très, très vigilant par rapport à tous ces mesures qui sont mises sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de suivi de tout ça. Alors, bon, dire un mot aussi sur la charte forestière du parc. Nous, on y a travaillé depuis le début. Alors, on avait beaucoup d'espoir, on s'est beaucoup accroché, on a beaucoup travaillé, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que dans cette charte forestière, il y a une fiche pratique sylvicole favorable à l'environnement, qui propose aux propriétaires d'irrégulariser leur peuplement de résineux. Parce que c'est là aussi où il faut changer de discours, quoi. Quand on nous dit, mais attendez, dans le Morvan, il y a des Douglas qui arrivent à maturité, il faut bien les exploiter. Ben, on peut les exploiter d'une certaine façon, par pied, en faisant des éclaircies fortes et en faisant revenir le mélange d'essence. On n'est pas obligé de faire des coupes à blanc de résineux. C'est pas une obligation. Et le parc, dans sa charte, proposait cette fiche. Je peux vous dire que ça n'a pas marché du tout, ça n'intéresse pas grand monde à part le groupement forestier. Et là, on s'est battu à la suite, voyant que ça ne marchait pas trop, et ça a été mis en place un contrat forêt. Alors le contrat forêt, nous on défend absolument ça. Il faut que ce soit un outil qui se développe. Pourquoi ? Parce que c'est un engagement précis du propriétaire vis-à-vis des investisseurs. Par rapport à ça, on peut exiger à un propriétaire de faire telle sylviculture, de faire telle chose sur sa forêt, et il sera financé pour ça. Et c'est le seul outil, à ma connaissance actuellement, qui existe vraiment fiable. Et bon, pour l'instant, il ne se développe pas énormément parce qu'il n'y a pas beaucoup de financement en face et pas beaucoup de moyens financiers qui sont mis en face. Mais on espère que ça va aller quand même de l'avant. Alors, à la suite, on a cherché quand même, nous, au terme d'agroécologie, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller de l'avant et un peu stopper ce rouleau compresseur. On avait fait des campagnes de pétition contre AXA Assurance, la Caisse d'épargne de Paris, qui étaient des gros enrésineurs des forêts morvandelles, qui maintenant ont vendu leurs forêts. C'est pas mieux les nouveaux propriétaires, je peux vous dire. Et donc, comme la Caisse d'épargne de Paris a enrésiné 2300 hectares dans la Nièvre, sur la région d'Arleuf. Il faut savoir que les forêts morvandelles n'étaient pas enrésinées. Il y avait des haies très sapinières qui étaient vraiment dans une évolution parfaite, en mélange, où il n'y avait absolument pas de critique à avoir. Donc l'engouement du Douglas est arrivé dans les années 70, car financé par l'État sous le Fonds forestier national. Et donc là, il y a eu un engouement d'investisseurs qui ont commencé à venir sur le Morvan pour avoir le plus grande surface et en résiner. Et donc, moi, j'avais déjà un peu réfléchi à une structure, parce qu'à chaque fois dans les réunions, on me disait « Mais madame, vous n'êtes pas propriétaire, vous n'y connaissez rien en économie. » Voilà, bon. Alors, ça commençait par m'énerver. Je me suis dit « Il faut absolument qu'on trouve quelque chose pour pouvoir dire « On est propriétaire » et en fait, on pourra s'imposer de cette façon-là. » Et on a eu l'occasion de le faire, parce que sur Autun, il y avait un grand domaine de 270 hectares qui était à vendre. Ce domaine est assez exceptionnel à tous les points de vue, parce que c'est une réserve d'eau potable pour la ville, c'est archéologique, c'est des belles forêts feuillues mélangées. Et c'était à vendre par la Fondation de France, qui avait été légataire et qui ne voulait pas morceler et qui vendait au plus offrant. Donc, on a cherché le moyen, nous, de préserver ce domaine, sachant qu'un grand domaine de 270 hectares, ça coûte très cher. Et que la première chose qu'un investisseur fait quand il achète une surface comme ça, c'est de faire une coupe à blanc pour rentrer dans son investissement. Voilà. Hein. Donc, avoir un retour rapide. Et alors, on a cherché ce qu'on pouvait faire. Et on a contacté la municipalité d'Autun, qui a été tout à fait ouverte parce que Autun est très concerné par ce domaine. Hein. Tous les Autunois connaissent et alentour pour des randonnées et autres. Et donc, on a cherché et on s'est allié aussi au Conservatoire naturel des sites bourguignons. Et Autun Morvoécologie, nous, on n'a pas vocation à acheter de la forêt et on n'en aurait pas eu les moyens. Donc, on a créé le groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan pour acheter une partie de ce domaine. Bien entendu, au début, on a fait appel à nos adhérents à Autun Morvoécologie qui ont répondu présent, et ce qui nous a permis, nous, d'acheter 32 hectares de ce domaine. Et la grosse partie a été achetée par la municipalité d'Autun. Voilà, le groupement forestier, en fait, on a eu l'occasion de lancer ce groupement forestier. Maintenant, on continue notre route sans collectivité. Et le groupement est propriétaire actuellement de 227 hectares, à des forêts sur les 4 départements de Bourgogne. Et on est plus de 450 associés. Et donc, ça fonctionne formidablement bien. C'est un outil collectif formidable. Parce que les gens qui rentrent dans, les associés qui rentrent dans ce groupement, on n'est pas un organisme financier. Ils savent très bien qu'ils ne viennent pas pour faire qu'on leur distribue des dividendes, etc. Mais nos objectifs sont très précis. C'est d'acheter des forêts pour les préserver d'une exploitation intensive. Mais c'est aussi pour démontrer qu'économiquement, on peut faire une bonne gestion forestière et préserver les sols, préserver la biodiversité. Pour moi, qui me bats depuis plus de 20 ans pour la forêt et qui quelquefois suis désespéré et découragé parce que les choses n'avancent pas assez vite, eh bien, le groupement forestier, c'est un exemple formidable et c'est un succès formidable. Mais vraiment, on a des assemblées générales, on a des associés qui viennent de toute la France maintenant, qui sont très loin, qui viennent. On fait des sorties les après-midi avec des thèmes différents, la forêt et l'eau, la forêt et les sols, la forêt et la biodiversité, avec des spécialistes. On a aussi un comité scientifique dans ce groupement forestier, avec un ingénieur forestier, un fiscaliste et une personne très compétente au niveau du droit, et aussi Jean-François Ponche, qui est un professeur en écologie du Muséum d'histoire naturelle à Paris, qui vient d'être en retraite maintenant, mais qui est un spécialiste de la biologie des sols et qui fait même des contributions dans des revues internationales par rapport aux sols. Donc on a quand même un outil précieux, puisque nous sommes deux co-gérants. Et je peux vous dire que le groupement forestier, on l'a constitué, c'est un peu par désespoir de voir ce désastre dans les forêts morvandelles. Parce que ce n'est pas de tout repos, de co-gérant, de gérer, ça devient quand même de plus en plus important. Mais vraiment, c'est quand même une vraie reconnaissance. Alors moi, je vous alerte aussi, parce que peut-être que vous êtes au courant, mais vous savez qu'il y a une loi forestière qui est en projet. Donc il y a eu un rapport, le rapport M. Collet, qui est maintenant responsable de l'ONF, du point de vue national. Ben, écoutez, moi je l'ai lu. Alors je peux vous dire que franchement déjà, je peux vous dire qu'il y a une phrase qui m'a retenue, page 19, je peux vous dire la page, parce que quelquefois quand je dis j'ai lu, on me dit quelle page, parce qu'on doit me suspecter de dire n'importe quoi. Donc je cite les pages, page 19, ce monsieur dit, attendez, je vais vous dire exactement, « La forêt la plus cultivée et la plus monospécifique est toujours plus diversifiée qu'un champ de maïs. » Voilà, vous lisez ça dans le rapport, monsieur Collet, voilà. Je peux vous dire aussi que si vous lisez le rapport de monsieur Attali, c'est peut-être encore pire, parce que vous ne voyez absolument pas mention d'une gestion proche de la nature. Vous ne trouvez absolument aucun article qui dit « il faut concilier biodiversité, économie » ou même quand on vous parle de gestion durable, normalement à base c'est social, économie et écologie. Eh bien, vous ne trouvez pas, vous pouvez chercher dans tous les articles, on n'arrive pas à trouver quelque chose qui irait dans ce sens-là, de dire, enfin, on a compris quand même maintenant, on doit être très vigilant par rapport au changement climatique, par rapport, on sait que le mélange d'essence, par exemple, c'est un outil formidable par rapport aux aléas climatiques. Bon, on continue quand même à planter des monocultures. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant. Et moi, je pense que tous les amoureux de la forêt, ils ont intérêt à être vigilants par rapport à cette loi forestière. Et puis, lorsque vous en avez l'occasion, ben, participez. Participez quand il y a des enquêtes publiques, quand il y a des réunions. Après tout, le citoyen, on peut lui demander quand même qu'est-ce qu'il veut pour l'avenir de sa forêt. Hein ? Et c'est quand même le contribuable aussi. Nous sommes tous contribuables. Et moi, je suis tout à fait pour qu'on aide la forêt. Mais à ce moment-là, on peut être exigeant sur les contreparties aussi. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop longue et que... Alors, si vous permettez juste un petit conseil quand même, quand vous achetez un produit en bois, bon Jacques vous en a parlé, mais vérifiez bien que le label, c'est un produit qui est labellisé FSC. Parce que même si ce n'est pas le summum, parce que nous, on voudrait que ça aille un petit peu plus loin, c'est quand même mieux que d'acheter un produit PEFC. Et en plus, un conseil, hein, le papier, ce sont des arbres. Alors, utilisez du papier recyclé. Tout le monde a cette possibilité. Recyclez vos papiers et utilisez du papier recyclé. Parce qu'il faut savoir quand même que l'industrie papetière est beaucoup en rapport avec les coupes à blanc qui se passent aussi sur le Morvan.